Chapitre 33. Ils n'arrivèrent à destination qu'en fin de matinée. Un collègue du SRPJ de Rouen les attendait dans son véhicule, garé devant une maison individuelle située à Elbeuf, en Seine-Maritime. Bernard Marquis était chef de groupe, un gaillard d'une quarantaine d'années à la carrure de demi de mêlée, à la courte chevelure noisette. Santucci alla lui serrer la main. Le Corse fit de rapides présentations et parla de leur affaire comme s'il s'agissait de son enquête. Oubliez tout le boulot de Titi. Ce salopard n'avait pas perdu de temps pour tirer la couverture à lui. Florence, sur les nerfs, maudissait l'impassibilité du glaive, qui installait une pellicule dans son appareil. Que pensait-il, bordel ? Vous avez la photo ? Demanda Santucci. Marquis leur tendit un cliché récent d'Hélène Lemaire, la propriétaire du pavillon devant lequel il se trouvait, qui avait disparu. Le Corse la confia à Florence, qui acquiesça.
Oui, c'est elle. C'est bien elle.
Les mines étaient graves. Il tenait formellement l'identité de la victime aux organes brûlés. Florence observa en détail ce bout de femme souriante, pleine de lumière. Elle n'en ressentit qu'une colère plus forte. La morte n'était plus juste un corps mutilé, putréfié, livré aux mouches. Elle avait désormais un visage, un passé. Marquis les devança dans l'allée qui menait à la maison de facture classique, au mur en crépi beige, avec un jardin, des palissades et des rangées de cyprès qui l'isolaient des voisins.
Je vous retrace l'histoire du dossier. Hélène Lemaire, 30 ans, divorcée et sans enfant, ne se rend pas à son travail le lundi 2 décembre alors qu'elle y était le vendredi précédent. Elle est standardiste chez un gros assureur à Rouen. Son responsable direct passe des coups de fil, laisse des messages sur le répondeur 3 jours d'affilée. Le type, plutôt que de s'inquiéter, la menace de licenciement et tout. Enfin bref, c'est une autre employée qui, le dimanche 8, dans l'après-midi seulement, se décide quand même à venir jusqu'ici. Elle frappe, pas de réponse.
Il désigna le garage.
Elle fait le tour, glisse un œil dans la fente de la porte du garage et s'aperçoit que la voiture y est. Elle lance alors l'alerte au commissariat de la ville. Les collègues d'Elbeuf arrivent sur place. Comme tout est verrouillé, ils brisent une fenêtre de derrière.
Il inséra une clé dans la serrure de la porte d'entrée.
« Votre clé ?» commença le glaive. « Elle était posée sur la table du salon. »
Le procédurier jeta un regard au mécanisme. Pas de système de verrou à molette. Mais l'absence d'issue fracturée confirmait le mode opératoire du méticuleux. À l'intérieur, sur les murs blancs du hall, deux symboles avaient été tracés en rouge, face à face. Ils mesuraient au moins 1 mètre de haut.
« Les symboles des gamètes hommes et femmes, » souffla Florence. « Les cellules sexuelles. »«
C'est du sang ?»«
De la peinture. Le pot et le pinceau étaient au bout du couloir, là-bas. On pense que c'est lui qui les a rapportés. Aucune empreinte digitale exploitable. »
Florence resta là, en pleine confusion. Elle se rappelait ses cours de biologie. La fonction des gamètes était de fusionner pour donner naissance à un nouvel individu au patrimoine génétique unique. Qu'est-ce que le méticuleux cherchait à leur dire exactement ? Il n'avait pas écrit H et F ou dessiné un homme et une femme. Il avait choisi des symboles biologiques. Ça avait donc de l'importance pour lui. Elle rejoignit les autres dans la chambre. Sur la cloison face au lit était peint de la même façon qu'à Saint-Forger, Houdini. Florence remarqua la stupéfaction sur le visage du glaive. Celui-ci ne décrochait pas son regard de l'inscription. Il tenait là, sans doute, l'autre mot de la paire dont parlait le méticuleux dans sa lettre. Pagode Houdini. Le glaive haussa les épaules pour exprimer son incompréhension.
Hélène Lemaire a dû être surprise dans son sommeil, mais elle s'est débattue, poursuivit Marquis. Il y avait un peu de sang sur l'oreiller et le haut des draps. Les placards étaient ouverts, le pyjama au sol. Ils l'ont vraisemblablement forcé à s'habiller. On n'a pas trouvé ses papiers ni son sac à main, ils ont tout embarqué. Mon groupe et moi, on a été saisis le lundi matin, le 9 donc, pour disparition inquiétante.
Vous dites « ils » au pluriel. Ils étaient plusieurs ?
Simple supposition.
La pièce était en désordre. Table de nuit renversée, lampe de chevet cassée au sol. Santucci tendit au Normand une des deux enveloppes qu'il tenait.
On a découvert son corps la nuit du mardi au mercredi à Saint-Forger dans les Yvelines, expliqua-t-il. Selon notre légiste, elle a été tuée le jeudi ou le vendredi précédent. Si elle a été enlevée le week-end d'avant, ça signifie que l'assassin l'a séquestrée quelques jours avant de lui infliger ça.
Marquis observa les photos de la scène de crime.
Quelle bête sauvage a pu lui faire une chose pareille?
Le même taré qui a peint ses trucs sur les murs. Notre télégramme a été émis il y a une dizaine de jours. Vous avez mis un peu de temps à nous appeler.
Le Normand lui rendit son enveloppe d'un geste plutôt sec.
Du temps, oui, mais on vous a quand même contacté. 3 fois par mois, un Reaper jette un œil dans cette monstrueuse paperasse qui remonte jusqu'à notre état-major et il est tombé sur votre télégramme ce samedi.
On ne peut pas en dire autant de votre côté, puisqu'on a émis l'avis de disparition d'Hélène Lemaire un peu avant vous, et que vous ne vous êtes pas manifesté. Vous n'avez pas de Reaper chez vous? Ou alors ils font mal leur boulot?
Santucci fit la sourde oreille et reprit aussitôt.
Houdini. C'est le magicien, c'est ça?
Une légende vivante du début du siècle, en effet. On a recentré nos investigations autour de ça. On a cherché un rapport avec la magie dans l'univers d'Hélène Lemaire. On n'a rien trouvé. Elle semblait aussi proche de la magie que moi d'une école de danse classique. On s'est même procuré, non sans mal, une biographie de ce type, mais pour être honnête, on ne l'a pas encore feuilleté.
Nous, on avait le mot « pagode » peint de la même manière à Saint-Forger. D'après l'assassin, ces deux mots vont ensemble, et la paire est censée nous mener vers la porte d'un secret, ou vers quelqu'un qui serait en mesure de nous ouvrir cette porte. Vous y pigez quelque chose, vous?
Que dalle.
Où en est votre enquête? Et la vôtre?
Bernard Marquis n'avait pas l'air du genre à se laisser marcher sur les pieds.
Je ne m'en prends pas à vous particulièrement, mais on connaît le 36 et son incroyable capacité à tourner à son avantage les affaires importantes. Certes, vous avez découvert le corps, mais le lieu originel de commission des faits se situe sur notre circonscription. Notre implication est antérieure à la vôtre.
Le Corse fit mine de réfléchir, mais rien n'était improvisé dans son plan. Il en avait parlé dans la voiture à ses coéquipiers. Un vrai malin.
Vous avez raison, répliqua-t-il. Aussi, je vous propose qu'on travaille en co-saisine. Vous vous chargez des investigations concernant Hélène Lemaire, mais vous nous faites remonter les procédures pour qu'on les intègre à notre dossier. Officiellement, vous bossez sous notre autorité. Officieusement, on vous fait confiance et vous menez votre barque. À vous l'adrénaline, à nous la paperasse. Tout le monde y gagne.
Surtout vous.
Alors que les deux hommes défendaient chacun leur bout de gras et que le glaive mitraillait avec son appareil photo, Florence parcourut la pièce. Une chambre classique dans une maison classique. Quelques cadres accrochés, pas de livres. Elle jeta un œil par la fenêtre qui donnait sur des champs, puis vers le mur.
Houdini.
Le méticuleux avait pris le temps de laisser cette indication qui, à l'évidence, s'adressait à eux. Pourquoi prendre ce risque? Leur tueur se considérait-il comme un roi de l'illusion et voulait-il le leur faire savoir? Quel était le rapport avec les gamètes tracées dans le hall? Toutes ces questions se bousculaient dans sa tête quand elle revint à proximité des chefs, parvenue à un compromis. Marquis, visiblement plus en confiance, livrait des détails. L'absence de traces d'effraction nous a laissé penser qu'il, ou il au pluriel, possédait la clé, ou alors qu'une issue était ouverte. Ils sont entrés alors qu'Hélène Lemaire était couchée, sûrement de nuit. Personne du coin n'a rien vu ni rien entendu. Cette femme vivait seule, elle était fille unique. On a interrogé une bonne partie de son carnet d'adresses. Pas de profil suspect pour le moment.
Les parents?
Morts tous les deux dans une avalanche en 1983. Ils faisaient du hors-piste. Hélène avait 22 ans. Au moins, on n'aura pas à leur annoncer la triste nouvelle.
Ils habitaient à la montagne?
Haute-Savoie, oui, dans un bled à une vingtaine de kilomètres de Chamonix. Le couple tenait une boutique de fringues. Après leur disparition, Hélène a été incapable de continuer à vivre là-bas. Elle a tout vendu et a quitté sa région natale pour débarquer à Rouen, où elle a rencontré son ex-mari. Plus tard, ils se sont installés ici, à Elbeuf. Après le divorce il y a 5 ans, lui est parti à Rennes, elle est restée dans la maison.
Pas de lien avec la Bretagne quand elle était gamine? Demanda Florence.
Avec un hôpital brestois pour enfants, l'hôpital Merin?
Pas à ma connaissance. La Haute-Savoie et la Bretagne, ce n'est pas tout proche.
L'inspectrice pivota vers son supérieur.
Tu peux lui montrer les autres photos?
Le Corse tendit les clichés des gamins nus. Florence expliqua. Elle parla d'André Escrémieux, de sa pédophilie présumée, de sa fille Delphine qu'elle désigna du doigt. Bernard Marquis emmagasina les informations et secoua la tête.
Hélène Lemaire n'y est pas.
Elle n'a pas eu de soucis de santé touchant à l'appareil génital, l'urologie, insista-t-elle. C'était la spécialité d'André Escrémieux.
Le Normand haussa les épaules, fixant le glaive qui, quasiment dans le couloir, enfonçait encore le déclencheur de son appareil réflexe.
Rien n'est ressorti des auditions, en tout cas. Il faudra réinterroger l'ex-mari et éventuellement faire une requête pour accéder à son dossier médical.
Ils finirent par quitter la chambre qui, assurait leur collègue, avait été fouillée avec minutie par ses hommes. Dans le hall, Florence s'arrêta à proximité des symboles.
« Toujours ce rapport à la sexualité, » fit-elle. Le tueur a parcouru plus de 100 kilomètres entre cette maison et le cocon de Delphine Escrémieux pour y ramener Hélène Lemaire, l'attacher au lit et lui infliger des mutilations aux organes génitaux. Imaginez la souffrance qu'elle a dû endurer.
Elle se tourna soudain vers Marquis.
Hélène Lemaire était hétérosexuelle à 100%?
Il semblerait, oui. Elle a été mariée, a eu un petit ami ensuite. Pour tout vous dire, on ne s'est même pas posé la question d'une éventuelle bisexualité.
Je comprends. Admettons que le père de Delphine ait fait du mal à notre tueur alors qu'il était gamin.
un enfant victime d'un prédateur sexuel, un enfant qui restait profondément traumatisé par ce qu'il a vécu. Mais Hélène, que vient-elle faire là-dedans? Qu'est-ce qu'elle lui a fait pour mériter pareil châtiment? C'est quoi le lien?
L'inspectrice entendit les poils de barbe de Santucci crisser derrière elle. Après un temps, son chef reprit le chemin de la sortie aux côtés de son homologue normand.
On vous suit jusqu'à Rouen, histoire d'organiser notre collaboration et d'échanger un maximum d'informations avant que tout le monde parte pour les fêtes. Croyez-moi, inspecteur Marquis, on va lui mettre le grappin dessus. Et quand ça arrivera, ce fils de pute regrettera d'être né.